sujet un petit peu plus précisément, enfin, je voulais vous dire un peu en quoi j'ai croisé un peu ces questions du travail, du mouvement ouvrier, syndical et du droit. D'abord, en rappelant, mon premier travail de recherche, finalement, c'était une sociobiographie, puisque je faisais des études de sociologie, sur Henri Krasucki, qui a été donc, le dirigeant de la CGT entre 1982 et 1992. Donc un moment particulièrement difficile d'ailleurs pour la CGT. Et du coup, donc, ce premier travail, c'était il y a bien longtemps, vous voyez, 96. Mais je l'ai réinvesti récemment, notamment dans le cadre d'un colloque auquel j'ai participé, enfin que j'ai contribué à organiser, en fait, sur la CGT dans ces années-là, 75-95. Et donc ça va être un gros ouvrage qui va sortir un peu sur ces années-là. Et bah, il y a un chapitre un peu sur le dirigeant un peu qui marque beaucoup la Confédération Générale du Travail pendant ces années-là, qui est Henri Krasucki. Donc j'ai repris ce travail un peu, j'ai actualisé. Et puis sinon, j'ai effectivement travaillé sur un autre syndicat qui est de l'autre côté, en quelque sorte, de l'échiquier politique un peu. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais appréhendé au départ, qui était le syndicat des cadres, la Confédération Française de l'Encadrement, Confédération Générale des Cadres. Donc sinon, Guy en a parlé, mais donc, j'ai fait une thèse sur la mise en œuvre des 35 heures, donc, où j'ai croisé cette question du droit et des syndicats, évidemment, puisqu'ils participaient notamment aux négociations pour mettre en œuvre les 35 heures. Et puis, tout au long des années 2000, finalement, j'ai beaucoup exploité cette enquête de la DARES, là, qui s'appelle l'enquête Réponse, qui porte sur les relations professionnelles et négociations en entreprise. Et le point, la focale qui m'intéressait à chaque fois, c'était de travailler sur les conflits du travail, les négociations, mais surtout avec une entrée par les conflits, y compris donc à travers un dernier petit papier là, qui est sorti en début d'année dans une revue qui s'appelle Négociations, qui a donné lieu un peu à des controverses. C'est assez rare, en fait. Mais du coup, il y a une critique de mon papier, je réponds. Enfin, voilà, donc c'est un truc de chercheur, mais c'était assez... Et puis alors, sinon, pourquoi les États-Unis ? Bah, c'est en fait principalement d'abord par des lectures. J'ai rencontré les États-Unis principalement à travers deux ouvrages qui m'ont profondément marqué. Un premier dont je vais parler un petit peu aujourd'hui. Le premier, donc, qui s'appelle Rights at Work, qui est paru en 1994, de Michael McCann, et qui étudie en fait les luttes pour l'égalité salariale entre hommes et femmes, qui est une thématique assez présente aujourd'hui en France dans les négociations, voire les conflits qui agitent un peu les entreprises. Donc lui, ça porte surtout sur les années 70-80 aux États-Unis, dans lesquelles ces luttes se sont beaucoup développées et se sont beaucoup appuyées sur le droit et la justice. Donc il étudie ces choses-là. Et puis l'autre ouvrage qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, hein, y compris pour étudier les 35 heures, alors c'est un ouvrage qui est paru il y a 3 ans, hein, Working Law, de Laurine Edelman, mais qui est en fait un ouvrage qui fait une synthèse de beaucoup de travaux qu'elle avait publiés déjà un peu avant et que j'avais découvert au début des années 2000, au moment où moi je travaillais sur les 35 heures. Et du coup, voilà, c'est aussi un ouvrage important. Donc, je vous ai mis les couvertures ici un peu de ces différentes choses. Donc, à gauche, vous avez un peu des choses que j'ai publiées ou dans lesquelles j'ai participé, j'ai un peu travaillé sur ces syndicalismes, la question du droit et des régulations, des conflits du travail dans les années 2000 en France, ou l'affiche du colloque sur la CGT. Voilà, qui est un colloque qui se déroulait à Montreuil, hein, au siège de la CGT. Et je trouve que l'affiche est pas mal parce qu'on voit à la fois la crise, mais en même temps, il y a quand même un truc qui reste derrière, quoi, hein. Donc tout s'effondre pas non plus. Parce qu'en 95, justement, il y a un peu un retour, un peu, disons, de la CGT qui pouvait se poser des questions sur son existence même quelques années auparavant. Et puis à droite, vous avez les couvertures un peu de ces trois livres que j'ai évoqués, donc Rights at Work, Working Law, et puis le troisième, qui est beaucoup plus, qui porte pas sur le travail, mais qui m'a profondément changé ma manière de voir le droit et de l'analyser, puisqu'il a vraiment bouleversé, en fait, aussi dans la sociologie du droit américaine, comment on pouvait appréhender et étudier les manières dont le droit et le social, et le monde social, alors moi ce qui m'intéresse c'est le travail, mais ça peut être beaucoup plus largement dans d'autres domaines, comment le droit et le monde social pouvaient être analysés, s'articuler, avec l'idée qu'en gros on n'a pas le droit d'un côté et le monde social de l'autre, et on regarde comment ça s'influence, mais on va davantage regarder le droit comme constitutif du monde social, il fait partie et il émerge des interactions sociales et il contribue à cadrer aussi ce monde social, hein, plutôt que simplement de le voir comme deux sphères séparées. Et puis la dernière image que j'ai montrée, c'est finalement le bâtiment à Berkeley où j'ai été donc à deux reprises pendant 6 mois à chaque fois, puisque j'ai fait 2 séjours dans cette université où j'ai été accueilli dans un centre de recherche qui porte sur les relations entre droit et société, hein, le Center for Study of Law and Society, dans lequel voilà, j'ai pu écrire dans mon premier séjour, et puis mon deuxième séjour, qui était l'année dernière, où j'ai aussi mené une enquête un peu sur l'OSHA, donc je vais y revenir un petit peu, qui est l'inspection du travail, pas unique, mais importante aux États-Unis et notamment en Californie. Donc l'idée, c'était un peu de mixer ces travaux qui portent sur les conflits, les négociations, le travail, le syndicalisme en France, ces lectures américaines, et puis un peu ce terrain que j'ai commencé à faire en fait l'année dernière, que j'ai pas encore exploité. C'est la première fois que j'en parle en fait aujourd'hui publiquement, puisque j'ai pas encore vraiment complètement travaillé là-dessus. Alors du coup, j'avais proposé d'organiser la communication, enfin la présentation en trois temps. D'abord, revenir un peu sur cette question de l'État américain ou californien et des cultures juridiques, notamment dans le domaine du travail. Est-ce que on a deux États, puisqu'en fait, la France et la Californie sont assez comparables en termes de taille. La Californie à elle seule, c'est le sixième État du monde, en fait. C'est à peu près une population active de 20 millions de personnes, c'est à peu près presque autant que la France. Donc c'est très comparable en termes de taille. Et du coup, ça a du sens de regarder la France et la Californie, parce qu'évidemment, la France et les États-Unis, là, on a quand même un géant d'un côté et puis un pays moyen de l'autre. Donc,
Il y a un rivage océanique de l'autre côté aussi.
Pardon ?
La France et la Californie, de l'autre côté, il y a l'océan.
Voilà, il y a aussi un océan et puis un continent qui les sépare, parce que la Californie est complètement à l'ouest des États-Unis. Donc voilà, regardez un peu ces États, ces cultures juridiques et dans quelle mesure ils s'opposent, comme on le pense systématiquement. Et c'est pour ça que le séminaire est intéressant, pour voir si finalement ces images qu'on a en tête sur les Américains sont très très différents de nous, notamment au regard du droit. Donc essayez de regarder plus précisément comment ça se passe dans le domaine du travail et peut-être remettre un peu en cause cette séparation, en tout cas la nuancer ou l'étudier un peu plus précisément, et puis après prendre deux temps pour voir comment on peut étudier ces mobilisations du droit du côté des syndicalistes et des travailleurs, mais aussi du côté des entreprises qui, Guy l'a dit, mobilisent aussi le droit, l'utilisent aussi dans ces deux veines qu'il a évoquées rapidement, marxiste et plus durkheimienne, où le droit peut être vu comme un instrument de domination, mais aussi comme un instrument de protection ou de solidarité. Donc finalement, regardez un peu ça. Alors, il y a beaucoup de textes, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Je fais toujours des PowerPoints un peu longs. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de partir un peu de ces lieux communs. On oppose systématiquement le droit civil, le droit continental, représenté par le modèle juridique français ou allemand, d'un côté, et puis la common law, typique de l'Angleterre et des États-Unis, où, en gros, on a le droit, dans ces pays continentaux, c'est le droit de l'État, c'est la loi qui incarne le droit. Et du coup, c'est la conception rousseauiste. Le droit, c'est l'intérêt général, incarné par la loi produite par les législateurs, les députés, etc. Alors que dans les pays anglo-saxons, enfin Angleterre et États-Unis, le droit, c'est d'abord un instrument pour se protéger de l'État, dont on craint la puissance qui écraserait le citoyen. Et du coup, le droit est d'abord conçu comme quelque chose qui va permettre aux citoyens de se protéger de l'État. Donc vous voyez une conception très très opposée finalement entre ces deux systèmes juridiques que sont ce qu'on appelle la civil law, le droit continental, et la common law. Ça se traduit très concrètement derrière par le fait que qui est l'acteur important dans le droit civil continental, c'est le législateur qui produit les lois. Qui est l'acteur important dans le droit de la common law, c'est le juge qui, par ses décisions, va protéger le citoyen de l'État surpuissant. Et puis on a aussi d'autres lieux communs. On aurait un État fort en France. Alors ça, dans toute la comparaison internationale, on n'arrête pas de souligner à quel point la France est le pays stato-centré, le pays dans lequel l'État a un poids important, versus les États-Unis où on a une confédération d'États, donc un État fédéral qui serait faible, et puis même un État dont on se méfierait, avec ce que je viens de dire, et du coup un État plutôt faible. Et on insiste beaucoup sur l'idée que les États-Unis, c'est le règne du marché, au contraire de la France, où ce serait le règne de l'État. Donc on a aussi des oppositions fortes comme ça. On a aussi l'idée d'un modèle social français, qui serait avec des amortisseurs lorsqu'il y a la crise, versus un droit américain dans lequel ce serait le marché qui dominerait et le droit serait très faible, hein, ce que je viens de dire, mais où on valoriserait énormément le marché, où on ferait une forme de guerre aux pauvres, plutôt que des solidarités via le dispositif de protection sociale en France. Alors évidemment, c'est des lieux communs, c'est des choses très tranchées, et qu'il faut nuancer, et en particulier quand on regarde un peu dans le domaine du travail, bah moi j'ai été frappé par le poids des États américains, et en particulier en Californie. Alors là, il faut distinguer ce qu'a dit Guy, voilà, un État fédéral qui est de fait voilà, assez faible, dans le domaine du travail en particulier, même si il ne faut pas oublier qu'il y a un salaire minimum aux États-Unis. Mm-hmm. Il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de salaire minimum. Aux États-Unis, il y a un salaire minimum. On est d'accord, le salaire minimum au niveau fédéral, c'est $7.50. C'est totalement ridicule et finalement, c'est très très faible. Donc, est-ce que c'est vraiment un salaire minimum? Oui et non, parce que sur le principe, il y en a un. Même si en pratique, il est tellement faible qu'il ne sert pas de garde-fou comme le SMIC peut servir en France. Mais il y a des États qui voilà, mettent en avant des salaires minimums plus élevés. C'est même pas au niveau des États, c'est même au niveau des counties, au niveau des municipalités que ça se joue en ce moment aux États-Unis. Hein, depuis une dizaine d'années, il y a une campagne très importante pour ce qu'on appelle le $15 de l'heure. Hein, donc vous voyez que c'est doublé le salaire minimum fédéral. Et c'est une campagne qui s'étend. Aujourd'hui, à San Francisco, le salaire minimum, c'est $15 de l'heure. Hein, donc tous les gens qui travaillent à San Francisco, ils sont soumis à cette règle. Et quand on emploie un salarié, par une entreprise dans la ville de San Francisco, hein, c'est quand même 600 000 habitants, ben c'est $15 de l'heure. Et au niveau de l'État de Washington, donc c'est pas la Californie, mais c'est l'État qui est au nord-ouest, hein, et ben c'est au niveau de l'État, les $15 de l'heure. Donc il y a des choses qui se passent quand même, qui relativisent un peu cette idée d'un État américain totalement faible. Et puis, voilà, sur la manière dont est organisée, par exemple, la négociation collective, bah, aux États-Unis, quand même, historiquement, au moment du New Deal, il y a aussi eu des lois fédérales importantes, hein, ce qu'on appelle le Wagner Act 1935, qui est pris sous Roosevelt, qui est vraiment un moment fort d'affirmation du syndicalisme. C'est vraiment une loi qui va soutenir beaucoup le syndicalisme et développer l'idée que pour établir les règles du travail, bah, il faut négocier avec des syndicats. Et que dès qu'il y a un syndicat qui est présent dans l'entreprise, l'employeur, il ne peut pas faire du tout ce qu'il veut. Il est obligé d'aboutir à une convention collective sur l'entreprise et de négocier avec des règles qui font qu'aux États-Unis, s'il y a un syndicat qui est présent, tout le monde doit adhérer au syndicat, cotiser au syndicat.
Sauf les cadres.
Alors, sauf les managers, les cadres, effectivement, qui sont... voilà, qui ne sont pas obligés de ça, mais l'essentiel de la population salariée d'une entreprise doit se syndiquer. Alors comment un syndicat s'implante? Alors c'est un peu plus compliqué qu'en France, puisqu'il faut qu'il y ait un référendum qui est organisé, et si 51% des salariés votent pour qu'un syndicat soit créé dans l'entreprise, tout le monde doit adhérer au syndicat. Les 49% qui ont voté contre, éventuellement, doivent quand même prendre leur carte au syndicat, et le syndicat doit les défendre. Donc du coup, ça fait des syndicats qui, dans l'entreprise, lorsqu'ils existent, sont extrêmement forts. Tout le monde est syndiqué.
Qui décide de cette possibilité?
Bah alors c'est encore une fois à la suite de l'organisation d'un référendum. Non, alors,
mais qui décide du référendum?
Alors bah, là, il faut qu'il y ait... Plus que 50%, dans mon souvenir, c'est les deux tiers. Il y a des États dans lesquels il faut qu'il y ait les deux tiers des salariés qui demandent.
Il y a bien une initiative individuelle qui est de démarrage.
Oui, mais alors sinon, elle est collective. Il faut qu'il y ait suffisamment de salariés qui demandent pour qu'on organise un référendum pour qu'il soit mis en place.
Si vous voulez, les militants de la FL-CIO, c'est-à-dire il n'y a qu'une organisation syndicale, vont d'entreprise en entreprise. Et essayer de convaincre les salariés qu'ils ont tout intérêt à monter un syndicat dans l'entreprise. Alors d'ailleurs, avec un bon argument de vente, si je peux dire, entre guillemets, parce que dans les entreprises syndicalisées, comme on dit, les salaires sont de 20%, je ne sais pas si c'est toujours là.
Plus élevé, si, c'est toujours le cas. Alors c'est peut-être pas 20%, mais ils sont plus élevés.
Je précise ma question. Est-ce qu'il faut que le référendum soit organisé par au moins une personne de l'entreprise? Ou non?
D'abord, il fait une pétition. Une pétition de salariés qui signe un texte demandant l'installation du syndicat.
L'initiative vient en partie de salariés de l'entreprise, voilà. Oui.
Oui, oui. Parce qu'en France, il faut qu'il y ait au moins un salarié de l'entreprise qui crée la section syndicale.
Oui, c'est totalement.
Alors normalement, même en France, il faut qu'il y ait 3 personnes. La jurisprudence a plutôt dit 3 personnes, en fait.
Oui, mais il faut qu'il y ait une initiative, non pas idéologique de l'extérieur, mais de l'intérieur, en France.
Oui, oui, mais c'est aussi le cas aux États-Unis pour demander le référendum. Alors après, il y a des choses qui sont passées là-dessus, mais il y a encore des entreprises. Alors,
mais voilà. Ce qu'a dit Jérôme, c'est très important, parce qu'aux États-Unis, une fois que le syndicat est implanté dans l'entreprise, c'est 100% de taux de syndicalisation. Alors qu'en France, vous pouvez très bien, on peut être tous les deux installer un syndicat à l'entreprise, et puis n'avoir aucun adhérent. Vous voyez ce que je veux dire?
Ma question, c'est par rapport à la liberté syndicale initiale dans l'entreprise et pas le plaquage de l'extérieur. C'est pour ça.
Après, il y a des organizers, comme on dit, donc ces militants qui passent d'entreprise en entreprise pour essayer de convaincre. Mais il faut qu'il y ait des salariés de l'entreprise qui demandent la tenue d'un référendum qui se tient sous l'égide d'une agence en fait fédérale qui normalement veille à ce qu'il y ait une...
Mais est-ce que dans ce cadre-là, les salariés sont protégés qui demandent la tenue du référendum par la loi?
Alors non. Je crois Alors justement, ce qui s'est passé dans les années 80... J'anticipe un peu sur des choses que je voulais dire plus tard, mais c'est pas grave. Ce qui s'est beaucoup passé dans les années 80, c'est qu'il y a eu un mouvement anti-syndical avec des consultants, des entreprises qui vendaient aux entreprises le fait d'éviter une implantation syndicale. Et donc, qui ont systématisé tout un tas de méthodes répressives pour empêcher l'implantation de syndicats dans l'entreprise. Alors il y avait des campagnes d'information, parce qu'en fait le référendum il est précédé d'une campagne, d'une vraie campagne politique, comme un référendum politique, dans lequel les employeurs disent « Ah mais si jamais vous votez pour qu'il y ait un syndicat, vous allez perdre plein de choses », et puis les militants qui au contraire défendent l'idée qu'il faut se syndiquer. Donc ça donne vraiment lieu à une campagne, avec ici des possibilités de... On peut licencier quelqu'un, un meneur, voilà, ces entreprises de consulting là, se sont spécialisées sur ces éléments-là. Et ça a très bien marché d'ailleurs. Hein, aux États-Unis, dans les années 80, sous Reagan en particulier, il y a eu vraiment beaucoup d'entreprises qui étaient syndicalisées, qui ne le sont plus, ou qui ont empêché l'implantation d'un syndicat. Mais en tout cas, jusqu'aux années 70, le syndicalisme américain est assez fort, en particulier parce qu'ils réussissent à syndicaliser beaucoup d'entreprises. Il ne faut pas exagérer non plus le poids des entreprises syndicalisées. Il n'a jamais été majoritaire complètement aux États-Unis. Il y a encore. Et dans le privé aujourd'hui, on est comme en France. On a à peu près 8% de syndiqués, si je ne me trompe pas. 10%. Si j'exclus le public, parce que ça a beaucoup baissé par rapport à ces années 70 où on était plutôt à 30-40% d'entreprises syndicalisées. Donc, à l'inverse, si on regarde la France, il faut souligner comment il n'y a pas que du droit de l'État. Il y a aussi, notamment dans le domaine du travail, le poids de la jurisprudence est très important. C'est vraiment un droit dans lequel les décisions des juges sont très importants pour modifier le droit, le faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Donc un peu sur un système common law, dans lequel le juge a un poids important. Et puis, si on revient un peu sur l'histoire du mouvement ouvrier, les prud'hommes, qui sont ce tribunal du travail, ont eu un rôle très très structurant aussi dans la construction du mouvement ouvrier. Il y a des travaux qui ont bien montré ça, avec le fait que les prud'hommes étaient une institution vraiment... quotidienne, en fait, du quotidien des relations de travail, au 19e siècle et au 20e siècle, jusqu'à la fin du 20e siècle en France, on est à 250 000, 300 000 décisions prud'homales par an, ce qui est quand même un truc important. Alors, là aussi, les choses ont beaucoup changé depuis une vingtaine d'années, c'est assez récent, où il y a un recul très important du nombre de procédures prud'homales. Mais historiquement, la France, les tribunaux jouent un rôle important, par exemple, dans la question du droit du travail. Alors, pour autant, évidemment, ces cultures juridiques et étatiques, il ne faut pas du tout les unifier, elles restent très différentes. Et du coup, là, je voulais juste évoquer rapidement un bouquin d'un Américain qui s'appelle Robert Kagan, qui est un bouquin du début des années 2000, qui s'appelle Adversarial Legalism, The American Way of Law, qui est un jeu de mots sur American Way of Life, évidemment, et dans lequel il essaye de montrer comment, dans la manière à la fois dont on décide des politiques publiques et dont on justifie les décisions publiques d'un côté, et dont on organise en fait les manières dont on peut contester ces décisions, eh bien on peut construire un peu un tableau à quatre cases dans lequel on a des types assez différents qui s'opposent assez fortement. Et ce qu'il incite beaucoup sur le fait que le système américain, il est marqué par ce qu'il appelle le adversarial legalism, hein, donc la case en bas à droite, dans lequel on a à la fois un style de décision très formel, très appuyé sur le droit écrit, hein, sur la présence de ce droit très important, qu'on ne peut pas nier aux États-Unis. Par exemple, dans la vie quotidienne, ça n'existe pas un notaire, par exemple, aux États-Unis. C'est les avocats qui jouent ce rôle. Et donc, tous les Américains ont un avocat. Hein, alors qu'en France, l'avocat, c'est quand même un acteur qu'on croise beaucoup plus rarement dans sa vie quotidienne. Hein, je dirais. Et puis, on peut croiser ça avec... des modes de décision plutôt hiérarchiques ou plutôt participatifs. Et donc, aux États-Unis, Kagan incite beaucoup sur une manière de faire des politiques publiques et de les faire évoluer, y compris en prenant en compte les contestations ou la manière de faire participer les citoyens, pour caractériser le système américain par ce qu'il appelle un légalisme adversarial, dans lequel il y a du conflit, très fortement, mais qui se règle par le droit. Et à l'inverse, s'appuie pour monter ce modèle sur plus d'une quarantaine d'études sur tout un tas de choses, enfin voilà. Et le cas français, on est plutôt dans un bureaucratique légalisme, en fait, dans le cas français, dans lequel on a une dimension participante beaucoup moins importante, où on va pas attendre pour mettre en œuvre une politique publique que les gens se saisissent du droit pour la contester ou l'appliquer, mais ça va beaucoup plus être descendant par un service public, des bureaucraties, une bureaucratie d'État beaucoup plus importante. Alors, du côté de l'État américain, du coup, et notamment de la Californie, puisque c'est aussi des lectures que j'ai faites là-bas, du coup, je suis allé exhumer un peu deux ouvrages un peu anciens qui portent sur le travail et qui décrivent un peu cet adversarial légalisme. Hein, donc, notamment un de Philippe Nonnette, donc ces deux chercheurs à Berkeley, là, qui sont morts maintenant. Enfin, non, Philippe Nonnette, il n'est pas mort encore, mais il est très très vieux. Il a plus de 95 ans et puis il travaille plus, mais voilà. Mais en tout cas, donc ce bouquin, alors ce qui est intéressant, c'est que je mets l'accent sur ces deux livres qui datent de 69 tous les deux. Donc l'un qui s'intéresse au système de réparation des accidents et des maladies professionnelles. Donc on est dans le domaine du travail et de ces questions de santé au travail sur lequel je travaille un petit peu et je vais revenir. Et donc ce qui montre, c'est comment on a une agence californienne. Donc typique de l'État social institué au moment du New Deal, et qui est une commission qui prend des décisions pour reconnaître ou pas une maladie professionnelle. Et donc, derrière, il y a des pensions, des rentes pour les salariés qui ont eu un accident au travail ou qui ont eu une maladie à cause du travail. Et du coup, ce qu'il montre, c'est que cet adversarial legalism, il s'est construit au cours d'un processus historique. C'est pas la culture américaine, c'est comme ça depuis Tocqueville ou deux siècles. Mais progressivement, il y a eu une commission plutôt bureaucratique dans la manière dont elle prenait les décisions, qui a été confrontée à des contestations qui, beaucoup, se sont déroulées sur le terrain judiciaire. Du coup, cette commission, d'un rôle relativement actif dans l'octroi de droits pour... encore une fois, aider des salariés subissant un accident ou une maladie professionnelle, c'est devenu une commission beaucoup plus passive qui tranche des cas qui lui sont soumis, dans lequel on a deux parties, hein, le salarié qui demande une reconnaissance et puis l'employeur qui la conteste. Et la commission ne fait plus que trancher en droit. Et donc, vous voyez typiquement ici comment cet adversarial légalisme, il s'est construit progressivement. Hein, donc c'est ce que montre Nonnette. Alors, si je compare avec le système français... en matière de reconnaissance des maladies professionnelles et des accidents du travail, on a là aussi pas forcément un système qui fonctionne mieux. Il est beaucoup plus bureaucratique en apparence, puisqu'on a ce qu'on appelle le système des tableaux pour reconnaître les maladies professionnelles. Donc on a les syndicalistes et les employeurs et l'État qui se réunissent et qui, dans une commission un peu équivalente à celle qu'étudiait Nonnette au départ, décident de construire des tableaux dans lesquels, si jamais on a telle maladie, dans telle condition, automatiquement, on va considérer que c'est une maladie professionnelle et on va avoir une pension, une indemnité. Donc on pourrait dire que c'est un mode assez bureaucratique et assez automatique. Du coup, ça évite cette nécessité pour les acteurs de saisir le droit, de faire un dossier dans lequel l'employeur va contester. Non, non. Si jamais vous avez un cancer lié à l'amiante, voilà, un cancer de la plèvre, dans telles conditions, c'est automatique que vous ayez une rente. Voilà. Si jamais vous avez un accident qui se déroule sur le lieu de travail, dans des conditions qui sont assez pas si restrictives que ça, automatiquement, vous avez une compensation financière, une aide, etc. Hein, alors simplement, des travaux récents, notamment celui d'Emmanuel Henry, montrent comment ce système-là, qui peut sembler plus juste que le système américain dans lequel il faut que les parties appellent à des avocats, fassent des dossiers, contestent les choses, en réalité, il est pas du tout forcément plus protecteur pour les salariés, en particulier parce que ces tableaux, ils font l'objet de négociations entre le patronat et les syndicats, sous l'égide de l'État, mais avec une restriction très grande. Il y a une centaine de tableaux en France aujourd'hui, et il y a tout un tas de maladies qui ne sont pas reconnues dans les tableaux. Et si votre maladie n'est pas reconnue dans les tableaux, par contre, ça devient quasiment impossible de se voir reconnaître un accident, enfin une maladie professionnelle. En l'occurrence, c'est plus sur les maladies. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une grosse controverse autour du burn-out. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ça. Est-ce qu'on crée un tableau avec des signes cliniques où on dit, si jamais vous avez tel signe clinique qui font que vous êtes en burn-out, alors automatiquement, on va avoir une réparation. Et donc aujourd'hui, on voit bien que ça résiste. Les employeurs et l'État, en fait, malgré des propositions de députés qui l'ont mis à l'ordre du jour, résistent pour et refusent de créer ce tableau du burn-out, par exemple. Et donc tout ce qui concerne la souffrance au travail ou la santé au travail, mentale en particulier, elle est très très mal prise en charge en France à cause de ce système des tableaux qui, du coup, en pratique, n'est pas forcément plus favorable que le Workers' Compensation System de Californie qu'évoquait Nonette. Alors, après, il y avait un autre bouquin qui date de la même année, d'un autre chercheur qui s'appelle Philippe Sesnik, et qui, je vais aller très très vite là-dessus, mais il insiste beaucoup sur ce qui se passe dans ces années 50, 60, enfin depuis les années 30, en fait, aux États-Unis. C'est vraiment une diffusion de ces valeurs du droit, et en particulier de ces valeurs, sinon d'égalité, en tout cas de justice. Et du coup, il y a ce qu'il appelle un processus de légalisation des organisations, dans lequel les organisations privées, les entreprises, sont de plus en plus tenues de justifier les décisions qu'elles prennent. Le manager, lorsqu'il embauche, lorsqu'il sanctionne, lorsqu'il organise le travail, il doit de plus en plus le faire de manière juste. Il doit répondre à des impératifs légaux. La légalité étant ici d'abord une valeur morale, l'idée étant qu'il faut traiter les gens équitablement, de manière égalitaire. On peut justifier de différence de salaire, mais il faut que ça soit justifié, c'est pas à la tête du client. Et donc il y a tout un refus de l'arbitraire qui a progressivement pénétré toutes les entreprises américaines et qui a contribué à ce que Selznick appelle une légalisation des organisations. Donc il y a par le droit, un système de travail dans lequel on reconnaît de plus en plus de droits, les valeurs du droit liées notamment à l'exigence de justice, d'équité, de fairness, comme il le dit. Donc voilà, je voulais juste évoquer ces deux lectures-là. Et de ce point de vue-là, si on compare le système français et le système californien, en tant que tel, il faut noter que dans les deux pays, on a une législation du travail qui est assez répandue, assez abondante. Dans le Kansas ou l'Iowa, c'est tout à fait différent. Mais en Californie, il y a vraiment beaucoup de lois dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail minimum, dans le domaine de la santé au travail, dans le domaine des horaires de travail. J'ai découvert ça aussi l'année dernière. Moi qui pensais que, il y avait 35 heures en France, puis aux États-Unis, c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas de législation sur les horaires de travail. Non, pas du tout, en fait. Il y a une vraie législation en la matière. Alors, même si ça passe surtout aux États-Unis et en Californie aussi, par la question de la discrimination. C'est vraiment la question de la discrimination au travail qui est le vecteur par lequel le droit du travail se diffuse aux États-Unis. C'est-à-dire que beaucoup de problèmes au travail sont cadrés comme des problèmes de discrimination. Ce qui, en France, est tout à fait inhabituel, parce qu'en France, la discrimination, ce n'est pas un concept républicain. En France, traditionnellement, il n'y a pas de discrimination. On est dans une république, une indivisible, tous les gens sont... Alors, la question de la discrimination, elle est venue par l'Union européenne, qui a beaucoup obligé la France à considérer qu'il pouvait y avoir des pratiques discriminatoires, notamment dans le domaine du travail. Donc, il y a des lois, des directives européennes qui ont été transposées en France. Et vous avez cette question de la discrimination au travail qui prend de l'importance en France depuis une vingtaine d'années seulement. C'est depuis le début des années 2000 qu'on se met à parler vraiment de discrimination au travail. Alors qu'aux États-Unis, depuis très longtemps, C'est comme ça qu'on cadre les problèmes de travail, qui ne sont pas forcément des problèmes de discrimination au départ, mais qui vont être cadrés comme ça, qui vont être interprétés comme ça. Et pourquoi ? Bah aussi parce que c'est en matière de discrimination qu'on va pouvoir obtenir des choses devant la justice.